Tu me donnes le top, d'accord? C'est bon? Bon, eh bien, rebonjour à tous et merci au Mathieu et les organisateurs de la journée de me donner l'occasion de présenter les résultats d'une enquête que je suis en train de terminer, on va dire. Mon point de départ n'est pas tout à fait le même que celui précédent, même si on va voir qu'en termes de méthodologie, il y a des choses qui se recouvrent. Moi, mon interrogation, c'était d'essayer de comprendre en quoi le travail, c'est-à-dire le contenu des missions, les conditions de travail et les représentations des enseignants-chercheurs sur ce travail ont évolué au cours, disons, des 3-4 dernières décennies, avec évidemment l'hypothèse qu'il y a eu des évolutions et qu'elles sont à relier à ce que j'évoque, c'est-à-dire un certain nombre de réformes qu'on peut qualifier de néolibérales, ou on peut aussi parler de l'introduction ou du développement du nouveau management public au sein des universités. Donc voilà le point de départ, en vous précisant que je démarre cette enquête au moment où je me retire de mon activité principale, puisque je fais valoir mes droits à la retraite, comme on dit, et en devenant émérite, je peux simplement me consacrer à ce qui... J'ai adoré enseigner, mais j'ai aussi adoré faire de la recherche. Et donc, le premier résultat de mon enquête, c'est que sur les 2 années et demie qui ont suivi mon départ en retraite, j'ai eu beaucoup plus de temps pour faire du terrain et j'ai pu mener à bien à peu près 2 enquêtes, beaucoup plus de temps que dans les 15 années précédentes. Donc, en fait, il faut être à la retraite pour pouvoir faire son métier. C'est un paradoxe quand même qui est déjà, je trouve, un premier résultat, même si c'est très pointilliste comme vision. Alors, à chaque fois que je fais une présentation, j'essaye de prendre quelques titres récents. J'ai aucune difficulté à illustrer ce dont je veux parler. Hein, donc voilà, je vous laisse voir quelques évocations des évolutions les plus récentes du monde de l'université, avec à la fois la poursuite de l'excellence vantée par le ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Les plateformes, donc Parcoursup, maintenant mon master, j'ai pas besoin de détailler pour vous, je pense. Moi, j'ai eu la chance d'échapper à mon master, enfin, je veux dire à la plateforme, et puis les questions liées à la précarité. Alors, en vous précisant que je ne vais justement pas directement aborder les questions de précarité, puisque j'ai décidé de délimiter la population que j'étudie à celle des enseignants-chercheurs titulaires, exclusivement. Je ne néglige pas l'importance de la précarité, mais c'est un sujet un peu différent. Et je me polarise sur les questions de travail plus que sur les questions d'emploi, même si, évidemment, il y a des liens entre les deux. J'ajoute que j'ai évacué une partie du public des enseignants-chercheurs de la population étudiée, tout ce qui concerne la santé, sachant qu'on a là des spécificités vraiment assez particulières hein, sur les PUPH, et donc voilà. Je vous propose de présenter ça en 3 temps. Quelques mots sur l'enquête d'abord, quelques résultats sur le cœur de la recherche, c'est-à-dire qu'est-ce qui a évolué finalement dans le travail et les conditions de travail et la façon de percevoir ces évolutions. Et puis je proposerai 4 conclusions parmi d'autres, hein, en vous précisant aussi que certains résultats, disons plus quanti, sont pas encore tout à fait disponibles pour une raison simple, c'est que je ne suis pas capable de les travailler seul. Mes compétences étant assez limitées dans le domaine quanti, je suis en train de travailler avec un collègue qui me donne un coup de main pour essayer de voir s'il y a un certain nombre de résultats plus particuliers qu'on peut tirer, je le pense, des résultats dont je dispose. Donc, d'abord, quelques éléments de définition et de contextualisation. Je vais rien vous apprendre, mais je suis parti d'une idée que j'ai pu expérimenter, et vous aussi, j'imagine, auprès de la famille, des amis, des proches, c'est qu'en fait, on ne sait pas ce que c'est qu'un enseignant-chercheur. C'est-à-dire qu'en gros, les gens ils vous disent « Ah bon, t'as plus cours, donc bon, voilà, t'as fait ton boulot. » Bah oui, mais non. C'est plus compliqué que ça. Alors, j'ai trouvé 2 définitions, une qui est très, très pragmatique, hein, celle de Valérie Sacriste, puisque on est ce qu'on fait. Donc là, au moins, c'est une boîte qu'on peut rentrer, remplir, mais qui, au demeurant, n'est pas forcément faux si on se demande comment évolue l'identité professionnelle des enseignants-chercheurs avec le temps. Une deuxième qui est plus précise, celle de François Vatin, hein, à savoir l'importance de la production et de la diffusion de la connaissance et du lien supposément indissociable entre les deux, c'est-à-dire comment les recherches nourrissent l'enseignement et l'enseignement nourrit ou non la recherche. La population, donc je vous le disais, hein, voilà, c'est les. Je démarre en 2020, donc grosso modo 46 000 enseignants-chercheurs, avec une répartition entre les deux corps des maîtres de conf et des professeurs des universités, où s'il est assez logique qu'en moyenne les PU soient plus âgés que les maîtres de conférence, puisque c'est une carrière qui se construit bien sûr, en revanche les écarts en termes de genre laissent penser que les inégalités, voire les discriminations, ne sont pas étrangères au monde de l'enseignement supérieur et de la recherche, puisque on note quand même qu'il y a une chute, une différence très nette dans la proportion, alors qu'a priori, les PU étant à peu près tous d'anciens maîtres de conf, normalement, on devrait avoir des pourcentages à peu près identiques avec les écarts qu'on observe par ailleurs selon les trois grands domaines, hein, mais qu'on observe déjà chez les PU. Avant d'entrer dans qu'est-ce qui a changé, il faut d'abord regarder qu'est-ce qui a changé dans le travail des enseignants-chercheurs, qu'est-ce qui a changé dans le contexte. C'est-à-dire que, comme le disent souvent les économistes, on va comparer toutes choses égales par ailleurs, mais là, nous, non. On va comparer toutes choses inégales par ailleurs, et en tout cas, trois choses majeures. La première, ben, tout le monde le connaît ici, je pense, hein, mais qu'on peut rappeler, c'est l'évolution à la fois quantitative et qualitative de la population étudiante. Donc on voit une augmentation très très significative du nombre. On passe en gros de 200 000 à quasiment 3 millions aujourd'hui. Là, je me suis arrêté en 2020-21 pour prendre des écarts de 10 ans. Mais donc évidemment, on le sait tous, derrière le changement d'échelle numérique, c'est aussi des populations, des origines sociales, des rapports au savoir, à l'apprentissage, à l'université, des attentes peut-être, qui se sont transformées avec cette massification qui est liée, comme on le sait, à la massification, la démocratisation quantitative de l'enseignement secondaire intervenue dans les décennies, en particulier 60 à 80 pour le collège et plutôt 80 à 2000 pour le lycée, avec l'apparition, le développement des trois types de bacs, etc., etc. Mais donc, l'une des évolutions majeures, c'est que en étant enseignant-chercheur, on n'a plus en face de nous, aujourd'hui, les mêmes publics qu'il y a 20, 30, 40 ans, et a fortiori auparavant. Deuxième grande évolution, celle qui concerne les missions de l'enseignement supérieur et de la recherche, avec quelques éléments notables, hein, l'ajout par la loi LRU en 2007 de la mission d'orientation et d'insertion. Et quand on regarde la loi, il ne s'agit pas d'une mission d'aide à l'insertion, mais bien d'une mission d'orientation et d'insertion. Donc on aurait dû créer dans toutes les universités des BIP, hein, des bureaux d'insertion professionnelle. On a quand même eu la modestie de se limiter à des bureaux d'aide à l'insertion professionnelle. On ne voit pas bien comment une université va devenir une annexe de Pôle emploi. Mais c'est en gros, si je résume, ce qui était contenu dans la loi Pécresse. Les injonctions multiples et multipliées à la professionnalisation des cursus, et je mets volontairement des guillemets, dans la mesure où on entend beaucoup parler de la nécessité de professionnaliser, on entend beaucoup moins défini qu'est-ce qu'on entend par là. Ça veut dire quoi, professionnaliser un diplôme, une formation, un cursus? Et ça se fait comment? On va trouver des solutions plus ou moins pertinentes sur le terrain, en général. Troisième grande évolution, celle qui concerne le fonctionnement, et là encore, je mets des guillemets, la gouvernance des deux universités, c'est pas neutre le fait qu'on ait peu à peu imposé ce terme, qui vient d'abord du management de l'entreprise privée et qu'on a intégré progressivement, naturalisé, hein, et maintenant, je ne sais pas si c'est ici le cas, mais moi, dans l'université où j'ai fini ma carrière, on ne parlait plus que de la gouvernance de l'université, pas de la présidence, pas des instances, justement, de la gouvernance. Et puis, vous avez donc dans le fonctionnement, hein, quand même, si on regarde les 3-4 dernières décennies, l'introduction du LMD, le fameux 358, hein, dans le cadre de l'harmonisation européenne, le développement des crédits, transférable entre matières, entre universités, entre pays. La semestrialisation, qui a quand même profondément modifié et les modalités d'enseignement et les modalités d'évaluation et de suivi des étudiants, me semble-t-il. La mise en concurrence de plus en plus systématique des établissements entre eux, mais même des formations et des équipes à l'intérieur même des universités, et d'une certaine façon, les systèmes de plateformes qu'on évoquait tout à l'heure intègrent, entre autres choses, une concurrence. De facto, il faut attirer les meilleurs étudiants, donc proposer des cursus d'excellence. Enfin bon, je vous passe tout ce langage que vous connaissez parfaitement. L'autonomie dont vous avez parlé tout à l'heure des universités et les compétences élargies qui font aujourd'hui des présidents, des présidences d'universités, des gestionnaires de tout et de rien, en tout cas, enfin, si, pas de rien, de tout, mais de la main-d'œuvre enseignante, des administratifs, des locaux, du patrimoine, des, etc., etc. Et ici, on a les effets directs, me semble-t-il, du nouveau management public ou du new public management adapté à l'enseignement supérieur et la recherche. Donc voilà trois évolutions majeures du contexte dans lequel est organisé le travail des enseignants-chercheurs. Alors je précise rapidement hein, le questionnement de départ avec les principales questions. Donc qu'est-ce qui a changé dans le contenu même du travail? Quelles sont les évolutions des conditions d'exercice, de l'entrée à la sortie, y compris les conditions d'accès à la profession, dont on sait qu'elles se sont très fortement durcies, là aussi, avec des phénomènes de concurrence liés aux modalités de gestion. Quelles sont les représentations des enseignants-chercheurs sur ces évolutions, c'est-à-dire comment ils les analysent, comment ils les vivent, comment éventuellement ils les ont intériorisées ou pas. Qu'est-ce que ça a comme écho sur le sens donné au travail? Le sens, c'est-à-dire à la fois la signification de ce travail et la direction vers laquelle on tend quand on effectue ce travail. Et bien sûr, comment on peut analyser ces évolutions que je vais donc essayer de retracer avec l'enquête. Cette enquête, donc je ne vais pas m'étendre, hein, mais un peu comme vous l'avez fait, mais à une échelle nationale, j'ai d'abord constitué un questionnaire en ligne avec l'objectif de cibler le plus largement possible les différentes disciplines, les différents établissements, universités, mais aussi les composantes particuliers comme les IUT ou les SP, mais aussi les établissements d'enseignement supérieur hors de l'université. Et donc, pour y arriver, j'ai procédé de la façon suivante, interroger systématiquement l'ensemble des collègues siégeant dans toutes les sections du CNU, puisque c'était un moyen d'avoir des adresses mail à peu près valables, et qui couvrent justement tous les domaines, avec un biais que j'admets, c'est que, a priori, les gens qui siègent au CNU sont des gens un peu plus investis, ou en tout cas ponctuellement, dans, disons, la gestion collective de la profession, un peu plus indiqués que la moyenne, quoique, quand on y regarde de près, finalement, tous les gens qui siègent au CNU ne sont pas forcément syndiqués. Hein. Et puis, la deuxième solution que j'ai adoptée, c'est de tirer au sort un certain nombre d'établissements. Alors, un sort que j'ai un tout petit peu... comment dirais-je, avec lequel j'ai un peu joué et aidé, voilà, le problème c'était de tomber sur des établissements dans lesquels il y avait suffisamment d'adresses mail visibles pour contacter les enseignants-chercheurs des 10 établissements, hein. Des 10, pas des 10, hein, des 10 établissements. Donc il s'agissait à la fois d'être en Ile-de-France, dans des grandes villes et puis dans des plus petites villes, parce qu'on peut supposer que les conditions d'exercice, notamment, ne sont pas forcément les mêmes dans les grands établissements d'Île-de-France, typiquement, et ce qu'on peut trouver dans des établissements ou des lieux plus petits. Donc ça, c'était le premier temps. Et donc, je dispose de 683 questionnaires totalement remplis, parce que j'en ai un certain nombre d'autres avec des collègues qui se sont... fatigué avant la fin, et c'est vrai que c'était assez long à remplir, hein. C'était minimum une demi-heure pour le remplir intégralement, sachant que dedans, il y avait à la fois des questions ouvertes, mais des questions fermées, mais pas mal de questions ouvertes pour pouvoir laisser quand même la place à l'expression. Je visais principalement des collègues ayant 10, 15 ans d'ancienneté ou plus, pour qu'ils aient un certain recul, ce qui explique le biais en termes d'âge. Mais comme je demandais aux collègues qui acceptaient qui recevaient mon mail de le diffuser auprès de leurs collègues, en leur demandant de cibler prioritairement des gens ayant 10 ou 15 ans, mais dans les mailles du filet, il y en a quelques-uns plus jeunes qui se sont glissés. Mais à l'usage, je m'aperçois que même dans les plus jeunes, il y a des gens qui n'ont que quelques années d'expérience comme enseignants-chercheurs, mais ils ont souvent été forcément doctorants, souvent moniteurs, ATER, etc. Ce qui fait que finalement, leur vision de l'enseignement supérieur a beaucoup plus d'années de recul que les quelques, peut-être, 2, 3, 4, 5 ans qu'ils ont d'exercice professionnel en poste, je veux dire. Donc voilà, vous avez une représentation à peu près. Alors mon objectif n'est pas, je ne prétends évidemment pas à une représentativité statistique, c'est juste pas possible en faisant ce travail un peu artisanal. En revanche, un échantillon qualitatif qui représente quand même assez bien, me semble-t-il, et les disciplines, et les âges, et les genres, et les types d'établissements. Et puis la dernière question du questionnaire était de savoir si la personne répondant serait prête à poursuivre avec un entretien, cette fois-ci semi-directif en tête-à-tête, et dans ce cas de me donner un numéro de téléphone ou une adresse mail, étant entendu que ça ne m'empêcherait pas de respecter l'anonymat, même si évidemment avec une adresse mail je sais qui m'a répondu, mais vous ne le saurez pas. Et donc le deuxième temps, c'était donc de procéder à ces entretiens. Là, les entretiens semi-directifs étaient minimum trois quarts d'heure et les plus longs ont duré jusqu'à une heure et demie. Et donc, voilà, j'ai 110 entretiens à peu près tous retranscrits à l'heure qu'il est, auxquels j'ai ajouté des interviewés un peu particuliers et sélectionnés, c'est-à-dire des représentants de chacune des organisations syndicales. Donc, j'ai 9 entretiens soit individuel, soit collectif, puisque certaines organisations syndicales ont souhaité me répondre en binôme, ce qui, moi, me dérangeait évidemment pas du tout. Et j'ai également interrogé 5 présidents et vice-présidents en poste, et là aussi, je ne vous dirai pas où. Mais l'idée, c'était d'avoir des interlocuteurs qui soient dans des positions un peu différentes, même s'il est convenu dans la profession que nos présidents et vice-présidents sont encore des enseignants-chercheurs, mais ils sont aussi beaucoup devenus des gestionnaires, voire des politiques. Mais bon, ça, je n'anticipe pas. Alors, voilà pour la description. Et puis, il y a un troisième temps et un dernier temps dont vous faites partie, qui consiste pour moi à présenter mes résultats à des équipes, qu'elles soient syndicales, que ce soit des séminaires de labo ou des équipes dans des UFR. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, ça doit être la 7e ou 8e présentation que je fais. Alors, je l'adapte, c'est pas un magnétophone, rassurez-vous. Mais les questions, les remarques qui viennent pendant les présentations ou même après, donc n'hésitez pas à me contacter ensuite. Je suis très preneur parce que ça alimente aussi le travail d'interprétation qui est jamais terminé, mais que j'essaye de mener à bien en ce moment. Alors, qu'est-ce qui a évolué dans le contenu et les conditions de travail ? Je vais essayer de lister les éléments les plus importants qui ressortent du questionnaire et des entretiens et qui m'amènent finalement à me demander, en référence à la citation de Valéry Sacriste, « Ils sont ce qu'ils font », qu'est-ce que c'est qu'aujourd'hui cette profession ? Alors, ce qui apparaît massivement évident, c'est une augmentation du travail réalisé en nombre de tâches, et donc en diversité de tâches différentes, en temps consacré à ces activités professionnelles, et en charge mentale, notamment liée aux éléments précédents, c'est-à-dire que la charge mentale, elle est d'autant plus importante, me semble-t-il, que précisément on passe, et dans parfois des laps de temps très resserrés, d'une tâche à une autre, d'une activité à une autre, d'une urgence à une autre. Et ça, c'est un élément qui revient de façon très très massive Je n'ai pas souvenir dans les entretiens d'un seul collègue qui m'ait dit non, non, là, moi maintenant, maintenant je possède bien mon métier, comme on peut l'entendre chez certains professionnels, et en gros, voilà, je gère, ça, j'y arrive, quoi. On est plutôt sur le sentiment que c'est du toujours plus, quoi, hein, ce qui renvoie un peu à ce que vous évoquiez tout à l'heure. Plus de 80% des répondants mettent en avant l'alourdissement des tâches administratives. Alors, derrière, on ne met pas forcément toujours tous la même chose. Et c'est là où, dans les entretiens, on peut aller regarder qu'est-ce qu'on entend par tâche administrative. Et je pense qu'il y a à la fois des éléments qui relèveraient d'une forme d'ingénierie pédagogique ou d'organisation de l'enseignement, qui prend la forme de plus en plus de tâches administratives parallèles aux activités proprement dites d'enseignement, c'est-à-dire de conception d'un cours, de présentation d'un cours, d'évaluation des étudiants, de retour des étudiants, etc. Hein? Il y a les tâches administratives liées cette fois-ci à la recherche. Alors, pour certains collègues, ils mettent derrière tâches administratives la course après les budgets. Pour d'autres, ils le voient un peu différemment, hein? Mais la gestion des appels à projets et des réponses à projets fait évidemment partie des musts qui reviennent assez systématiquement. Et puis, il y a d'autres tâches administratives, notamment, et c'est là où indirectement on touche à la question de la précarité, c'est-à-dire que le fait de devoir recruter, gérer, suivre, veiller à ce qu'ils soient payés, des contractuels, des vacataires, etc., c'est aussi des tâches administratives, même si ce n'est pas que de l'administration, mais c'en est aussi. Et donc tout ça, évidemment, est une des traductions, une des concrétisations de la ligne précédente, hein. Troisième élément qui ressort massivement, c'est une inflation des demandes de remontée de données statistiques à travers des tableaux, en général des tableaux Excel, mais ça peut être d'autres formulations ou des tableaux ad hoc, hein, inventés par telle ou telle université ou regroupement d'universités. Et où là, il y a le sentiment qu'on est de plus en plus soumis à devoir remonter des données avant, pendant, après. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on prévoit, qu'est-ce qu'on fait, quels sont les résultats, quels sont les bilans. Et plusieurs collègues me disent, à certains moments, on a franchement le sentiment de remplir des fichiers, des tableurs que personne ne lira. Et il n'est pas certain qu'ils aient tort. Une inflation des procédures. C'est-à-dire qu'il y a une procédurisation du métier, qu'il s'agisse de s'occuper d'avoir un billet de train pour aller présenter une communication ou de demander un budget. Alors moi, j'ai le souvenir, c'est un de mes derniers souvenirs de directeur de labo, d'avoir passé 2 semaines de négociations au moment du confinement pour obtenir que l'université paye une cartouche d'encre aux collègues. Alors, j'ai eu droit à simplement une cartouche d'encre noire et uniquement pour les titulaires. Sachant qu'il s'agissait, précisons bien, hein, d'utiliser le budget du labo, qui était donc déjà disponible, et qui ne pouvait pas servir à faire des voyages notamment, puisque de toute façon, on était confinés. Et donc, c'est des plaidoiries multiples pour démontrer que oui, à partir du moment où on travaille à domicile, oui, on est amené à imprimer des choses, et qu'il n'y a pas de raison particulière pour que les collègues l'impriment avec leur encre qu'ils vont s'acheter. Mais ça a été, je vous assure, une bataille homérique, parce que il y a des procédures, il y a des règles. Ah, mais non, mais il n'est pas prévu, puisque vous avez des imprimantes à disposition, il n'est pas prévu de financer des cartouches d'encre. Ben oui, mais quand on est confiné, on ne va pas déclencher l'imprimante à l'université. Bon, voilà, c'est un exemple parmi bien d'autres. Et puis la réunionnite, qui devient, et le collègue tout à l'heure disait, en plus, c'est des réunions dans lesquelles